Je vous souhaite la bienvenue à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme pour cette soirée spéciale de la Nuit Blanche autour du conte. Je voulais juste vous dire trois mots sur notre institution. Donc, la Maison des Sciences de l'Homme, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a plus de 60 ans par le grand historien Fernand Braudel. Et notre mission principale, c'est le soutien à la recherche, tant en France qu'à l'international. Donc nous œuvrons quotidiennement à la circulation, à la diffusion des savoirs, des connaissances auprès du grand public et pour une compréhension plus fine de nos sociétés. Donc nous avons des programmes de financement de la recherche, nous avons aussi une maison d'édition, les éditions de la MSH, et nous organisons des événements comme celui-ci. Alors ce soir, nous avons choisi la thématique du conte justement comme symbole de cette transmission des savoirs, comme illustration de la transmission culturelle. Voilà, alors je vous laisse en excellente compagnie et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci. Merci beaucoup Alexandra, la cheville ouvrière de toute cette nuit blanche. Et nom auquel j'associe celui, si tu veux bien, de Corinne Le Carrère, qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre ce soir et qui est aussi à la genèse de ce projet. Merci de faire autant honneur au conte dans ce lieu de savoir, de science. Et finalement, rien de plus naturel quand on sait que beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheuses traitent du conte, étudient, font des recherches, y consacrent pour certains leurs thèses, etc. Donc c'était naturel de faire de la place au conte. Au cours de cette soirée, au cours de laquelle vous aurez donc une série de points de vue disciplinaires à laquelle vous pourrez contribuer, mais autant annoncer la couleur. Si vous avez été comblé parce que vous avez entendu à l'instant, et on y reviendra dans quelques secondes, autant vous prévenir, vous repartirez frustré. Parce que on vous annonce une nuit blanche, mais qui va s'arrêter à 23h30, c'est ça. Et les gardiens, qui sont des gens très aimables, vous avez pu les croiser, là sont intransigeants. Et nous annoncent la couleur à 23h30. La maison des sciences de l'homme se transforme en citrouille. D'accord ? Donc, on va essayer de tenir cet horaire. Et sans plus tarder, je me tourne vers les deux premières intervenantes. Vous voyez que d'emblée, la parité n'est pas respectée, mais on ne s'en plaindra pas. Et parce que ça dit peut-être aussi quelque chose du rapport du genre au conte, qui est le thème de cette première séquence qu'on élargira à la question de l'éducation, au prisme d'un conte en particulier que vous avez particulièrement étudié, l'une en particulier, à savoir Blanche-Neige. Mais auparavant, je sais que vous avez entendu la chorale à l'instant. Comment avez-vous reçu cette proposition d'un conte de Grimm traduit en une chorale et en une composition musicale? Là, je vous prends vraiment un peu au dépourvu, mais je vois Pascal Auray-Jonchière partir dans des réflexions.
Oui, ou des rêveries.
Ou des rêveries.
Parce que voilà, pour en parler véritablement, il aurait fallu relire le conte, et puis s'interroger sur la manière dont grâce à ce médium en particulier, hein, les choses étaient représentées, transmises. Bon, alors ce n'était pas le cas pour moi, et donc je n'ai pas tout suivi, tout entendu. En revanche, je trouve qu'il y a eu un effet réel de merveilleux, avec beaucoup de sentiments, d'émotions qui étaient transmis, hein, de diverses manières, vocales, instrumentales, etc. Et donc, c'est passionnant.
Mmh. Evelyne Jacquelin, est-ce que vous partagez ces émotions?
Oui, les émotions, absolument. Moi, j'avais triché, j'avais relu. Donc c'était plus facile et ça m'a permis de m'orienter mieux, effectivement, parce que on n'entend pas toujours absolument tous les mots d'une chorale, donc j'ai pu repérer plus facilement. Et du coup, je me suis posé des questions par rapport au souvenir du texte que j'avais. Enfin, ça fait une réception un peu différente, et notamment puisque il y a quand même des scènes où on essaye de faire peur à ce garçon qui n'a jamais peur. notamment avec des pendus, avec un cadavre qui se réveille. Enfin, il y a des choses. Et je me suis demandé comment ces enfants dans cette chorale, eux-mêmes, avaient pris le texte. Et la musique y apporte quand même aussi une certaine légèreté, je trouve. Il y a des effets, bien sûr, mais... Il reste une certaine légèreté qui est tout à fait justifiée par la fin, puisque bon, il apprend ce que c'est que le frisson de la peur avec de l'eau froide et des petits poissons, en fait, en recevant un seau d'eau froide. Donc c'est un conte lui-même extrêmement complexe, en fait, hein, de ce fait. Et cette légèreté me semble tout à fait justifiée. Mais je me suis quand même demandé comment les enfants. Il faut que je parle plus fort, pardon.
Plus près du micro.
Plus près, pardon.
D'accord, merci. Excusez-moi. Pascal de l'avoir signalé. Pour ma part, je remarque que c'est un conte qui est raconté de manière chorale par des enfants, des filles et des garçons. On va rester néanmoins dans l'univers de Grimm, puisque je l'ai dit, pour traiter de cette question du rapport entre le conte, le genre et l'éducation, on va s'attarder sur le cas Blanche-Neige, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez consacré à ce conte, Pascal Auré-Jonchère, qui nous venait tout droit de Clermont-Ferrand. Vous êtes professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Bravo pour l'exploit quand on sait la manière fantaisiste dont les trains parviennent jusqu'à Paris. Mais avant d'en venir à vous, j'aimerais faire un détour par Evelyne Jacquelin, qui vient d'Amiens, de l'université d'Artois, c'est ça ?
Alors, l'université d'Artois est à Arras.
Ah, autant pour moi, voilà. Pardon.
Mais je viens aujourd'hui d'Amiens parce que je me trouvais à Amiens.
C'est ça qui m'a... Voilà. D'accord. Et j'aimerais commencer par vous, parce que vous aurez aussi des choses à dire sur Blanche-Neige. Mais il y a un mot dans cet ouvrage collectif que vous avez dirigé qui a retenu mon attention. Alors, ça aurait pu être « voix et voix du conte », mais c'est un mot qui apparaît plutôt en sous-titre, c'est « mutation ». Ça me paraît un mot très très fort, parce que quand on s'intéresse aux contes, quand on écoute des conteurs et des conteuses, ils nous rappellent combien c'est l'objet de variations, d'interprétations, d'évolutions. Là, c'est mutation, ça va beaucoup plus loin, me semble-t-il, et ça tient, et là je vous laisse réagir, me dire si je fais une bonne interprétation de l'objet central de ce livre, ça tient au parti de montrer ce qu'il advient d'un conte quand il passe d'un média à l'autre, lorsqu'il fait l'objet, vous dites, d'intermédialité. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on peut rentrer dans ce travail ?
Oui, alors il y a trois parties, et c'est les deux dernières, les deux parties. Il y a une partie d'intertextualité, c'est-à-dire des transformations, passage de l'oral à l'écrit, qui serait déjà d'ailleurs un changement de média. Dans le domaine des contes écrits, il y a les réécritures, donc l'intertextualité plutôt, mais il y a effectivement des collaborations, puisque c'est collectif, c'est pas un livre que j'ai écrit de A à Z, et je donne quand même le nom de la personne qui l'a coédité avec moi, qui est Béatrice Ferrier, qui est une spécialiste plutôt du XVIIIe siècle français. Et moi, je suis germaniste, en fait.
Restons-en sur la mutation.
Voilà. Mais on a des collègues qui ont étudié les contes sur la scène. Donc, il y a les contes donnant lieu à des pièces de théâtre, les contes à l'opéra. Donc, on a un exemple de contes à l'opéra dans le livre, mais il y en a qui sont très connus, Cendrillon, etc. Et puis, on a des collègues africains qui nous ont donné des exemples de passages. C'est intéressant parce que, du coup, c'est sur un laps de temps plus court, hein, le passage de l'oralité traditionnelle à une écriture moderne et une réoralisation à la radio aujourd'hui, donc ce qu'on appelle la réoralisation, en fait, qui se fait sur un temps plus court avec une recréation radiophonique, notamment. On a des exemples du Cameroun là, dans ce livre-là. Donc on a tous ces passages, et on a aussi une contribution sur les illustrations, sur leur façon de... la manière dont elles peuvent façonner un imaginaire, en l'occurrence national, puisque c'était des illustrations des Grimm, des contes de Grimm, qui servent aussi de fresques historiques un peu fantasmées par Maurice von Schwind, et qui donc prennent place dans une mémoire avec éventuellement une fonction identitaire au XIXe siècle.
Peut-être est-il besoin de préciser que vous venez d'un autre univers, l'univers du fantastique, oui. Et c'est celui-là qui vous a conduit vers le conte.
C'est ça, je suis pas au départ, donc c'est pour ça que je travaille en philologue plus qu'en ethnologue, par exemple, ou voilà. Et c'est vrai que j'ai d'abord travaillé sur le fantastique, et donc mes recherches portent sur le fantastique comme une transformation ou comme une façon de mettre en œuvre le merveilleux. Et le merveilleux, il est aussi dans les contes, et il y a des contes fantastiques. Voilà, donc c'est à cette jonction-là, et c'est ce qui m'a amené à travailler sur d'autres formes de contes dans l'espace allemand, où la notion, enfin, dans l'espace allemand, la différence entre le conte populaire et le conte littéraire a longtemps été très importante, et puis on l'a un peu déconstruite. Bon, on aime bien déconstruire les choses quand on... quand on fait de la littérature et des sciences humaines.
Alors, on verra le sort que vous avez réservé, vous et vos collègues, au cas Blanche-Neige. Mais poursuivons avec vous, Pascal Auréjon-Quichère. Vous auriez pu participer à cet ouvrage dans la mesure, hein, voilà, dans la mesure où, sans parler de mutation ou d'intermédialité, vous montrez comment l'œuvre de Grimm a été réinterprétée dans différents registres. Néanmoins, une première question, c'était quand même audacieux, compte tenu de l'abondante littérature des ouvrages qui ont été consacrés à ce conte. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous attaquer à cette montagne ? Des circonstances particulières, m'a-t-il semblé ?
Oui, j'ai été extrêmement frappée, très surprise. Il y a de ça maintenant, le temps passe, plus d'une dizaine d'années, puisque c'était entre 2010 et 2012, de voir sur les écrans, alors là donc au cinéma, successivement diverses, justement, alors comment dire, reconfiguration, réadaptation, réécriture, ce que vous voulez, du conte de Blanche-Neige. Et puis alors ça se succédait. Il y a même eu un téléfilm, hein, qui avait été diffusé sur Arte la même année, je crois en 2012, et c'était toujours Blanche-Neige. Et je me suis demandé, mais pourquoi Blanche-Neige ? Et c'est vrai que ça a été le point de départ de ma réflexion d'abord personnelle et qui finalement a donné lieu à ce livre.
Alors, comment on va couper l'herbe sous le pied du public qui ne manquera pas de dire « Alors, qu'avez-vous pensé du dernier Walt Disney consacré à Blanche-Neige, objet de controverse ?» Eh ben, le livre est paru juste avant. Voilà. Donc voilà, vous n'y revenez pas.
Donc je n'y reviens pas.
Non. Revenons sur le plus important, me semble-t-il, c'est sur l'approche. Alors, un mot savant, le conte étudié par les académiques, les universitaires, suscite une floraison de mots, de concepts. On reviendra d'ailleurs sur cet aspect des choses, mais arrêtons-nous sur cette approche sociopoétique par laquelle vous entendez vous distinguer tout en vous réclamant de tout un courant, mais une manière de vous distinguer d'autres approches folkloriques, structuralistes. Mais je vous laisse le soin d'expliciter ce que vous entendez par approche sociopoétique.
Alors d'abord, cela suppose que je parte d'un texte littéraire, parisé, diront certains, peu importe, un texte littéraire qui est le texte des Grimm, hein, des frères Grimm. Et à partir de là, ce qui m'a intéressée, donc au fil du temps, jusqu'à aujourd'hui, donc de voir comment ce conte était, alors que va-t-on dire, métamorphosé tout simplement peut-être, compris, traduit. J'aime bien traduire dans un sens très large, à la fois essentiellement dans la littérature, donc grâce à d'autres textes, mais pas seulement. Puisque je me suis également intéressée à l'intermédialité, en prenant pour objet d'études des albums, pour la jeunesse ou pas pour la jeunesse, mais enfin l'objet album, en tout cas, des peintures,
voilà.
le cinéma. Voilà.
Et alors, ce que vous cherchez à montrer... Oui,
pardon, j'avais oublié la question. dans un objectif bien précis, sociopoétique, c'est très simple en fait. C'est une manière d'interroger les textes pour voir de quelle manière ils captent des phénomènes sociaux qui bien évidemment évolue dans le temps et puis à travers les espaces culturels également. Et ce que, justement, la captation et l'écriture, là aussi écriture au sens large, que ce soit des images, que ce soit le cinéma ou autre, ce que l'écriture fait de ces phénomènes sociaux et ce que ces phénomènes sociaux et leur captation font à l'écriture.
Voilà,
voilà, c'est cette réciprocité.
Oui, c'est cela qui est intéressant dans cette approche, c'est que vous ne vous contentez pas de montrer comment le contexte peut influencer l'écriture, c'est comment le contexte amène à se réapproprier un conte, en l'occurrence Blanche-Neige, et ça permet alors en lien avec des évolutions sociales, et on comprend mieux l'effervescence qu'on évoquait tout à l'heure autour de ce conte, ce regain d'intérêt qui coïncide à je vous laisse poursuivre les points de suspension.
Oui, oui, il y a un mot important que je n'ai pas prononcé, justement toujours à propos de la sociopoétique, c'est le terme de représentation. La représentation qui est la manière dont un ou plusieurs individus au sein d'une même collectivité se figurent les choses. Comment, justement, ils les comprennent, ils les interprètent ensemble avec des espèces de codes qui circulent. Et c'est une question de représentation aussi que la sociopoétique.
Ah, je pensais que vous alliez rebondir sur le mot d'appropriation. On utilise le conte aussi pour l'inscrire dans un mouvement, une lutte sociale, etc. Tout à fait. Ah, très bien. Et alors, dans le cas de Blanche-Neige, cette effervescence coïncide avec la poursuite du mouvement féministe, mais aussi de l'arrivée en force de l'approche en termes de genre. Et ça donne lieu, du coup, à non pas à des redécouvertes, mais à presque à une réinvention du conte.
Une réinvention du conte, une réinvention notamment du personnage de Blanche-Neige, mais pas seulement du personnage de Blanche-Neige, avec des apparitions sur le devant de la scène qu'on n'aurait peut-être pas soupçonnées, comme celle de la fameuse Marâtre, la belle-mère, qui souvent, dans les productions récentes ou très contemporaines, parle, c'est elle qui parle, ce n'est pas le narrateur, ce n'est pas Blanche-Neige, c'est elle qui raconte une histoire. Bon, il y a aussi une évolution qui va dans le sens où Blanche-Neige prend voix, V-O-I-X, elle se met à parler et à écrire et à réécrire sa propre histoire telle que nous tous nous l'imaginons et bien évidemment que nous ne l'avons pas comprise.
Je vais laisser Evelyne Jacquelin réagir, compléter, mais auparavant peut-être une autre question qui porte sur l'hypothèse que vous avancez pour expliquer cette étonnante plasticité de ce conte au fil du temps, comparé à d'autres, Cendrillon, c'est celui que vous citez, qui vous paraît beaucoup plus stable dans la manière dont on l'interprète. Et vous avancez une hypothèse que je trouve séduisante. Est-ce que...
Oui, mais qui est très, en réalité, qui est très simple. Il est quand même singulier depuis le départ, depuis que les frères Grimm s'y sont intéressés, ce conte. C'est que ils ne l'ont pas écrit en une seule fois et il n'y a pas un récit stable. Il y a eu diverses étapes que la plupart du temps nous ignorons d'ailleurs parce que peut-être nous avons des points de fixation culturels particuliers qui se sont manifestés d'ailleurs entre-temps. Je pense à Disney en disant cela. Souvent Blanche-Neige, on pense au film d'animation de Disney qui lui-même a... Je passerai, mais qui a produit quelque chose de radicalement différent par rapport, en réalité, au texte au pluriel de départ des Grimm. Mais ce qui est intéressant, ce sont les différences d'un texte à un autre. Il y a une espèce de feuilletage, et c'est ça qui est passionnant. Et ce qu'il y a, juste un exemple, c'est l'exemple principal, au cœur de ces changements, de ce feuilletage, il y a un changement de taille. C'est qu'au départ, la reine... La mère de Blanche-Neige ne mourait pas. Et donc, c'était la mère de Blanche-Neige qui avait l'intention de se débarrasser de sa propre fille.
Oui, c'est sa mère, alors que dans d'autres versions, biologique. C'est la marâtre. Voilà.
Et puis, très vite d'ailleurs, dès la deuxième édition du conte, en 19, les Grimm, un petit peu sous la pression de leur entourage d'ailleurs, qui trouvaient ça un peu fort de présenter un tel canevas, surtout en prétendant vouloir transmettre un conte à des enfants. Les Grimm ont modifié au moins cela, pas seulement cela, mais ils ont fait mourir la mère, alors là, très vite et sans aucune explication, au bout du premier paragraphe, pour mettre en scène un substitut plus acceptable, hein, la belle-mère, qui est devenue ce personnage de la marâtre.
Je m'inquiétais peut-être inutilement de savoir si des enfants de la chorale de la maîtrise nous avaient rejoints. J'espère pas, mais après tout, ils sont eux-mêmes acculturés aux contes et ils savent pertinemment que les contes ne sont pas faits initialement pour les enfants.
Non.
Voilà. Evelyne, Jacqueline, comment voulez-vous réagir ou compléter, croiser avec votre propre...
Je n'ai pas pris de notes, donc je vais essayer de... dans les changements de début à propos des enfants et ce passage de la mère à la belle-mère et le côté horrifique qu'il peut y avoir, il faut rappeler aussi, dans le côté horrifique... Et en pensant aux enfants, que c'est une mère, puis une belle-mère anthropophage, en fait. Mmh. Hein, puisqu'il faut se rappeler qu'elle demande quand même que le chasseur ramène le cœur. Et dans les versions, tu sauras mieux que moi, mais il me semble qu'il y a dans les versions qui sont notées par les Grimm dans les notes, il y en a une où elle cuisine elle-même au départ. Après, elle demande départ, il me semble qu'il y a une première version où c'est elle qui fait cuire carrément. Donc, c'est véritablement une scène d'anthropophagie. Je voulais signaler une des autres raisons possibles pour le passage à la belle-mère qu'on évoque moins, qui m'est venue moi en lisant dans une des préfaces, puisque chaque fois que les Grimm réédite, il y a 7 éditions différentes en fait. Hein. Toutes les fois qu'ils rééditent, ils font une préface de plus en plus courte, mais au début, il y a quand même plusieurs préfaces assez longues. Et dans l'une de ces préfaces, il considère le motif de la belle-mère, hein, comme un motif central et récurrent. Donc, je me suis demandé s'ils n'avaient pas aussi accepté ce changement dans la logique qui était la leur de dire « nous ne sommes pas des auteurs ». Nous sommes des collecteurs et c'est la voix du peuple qui parle. Ça entrait dans cette esthétique aussi, il me semble.
Oui, c'est fort possible. Mais enfin, en tout cas, ça leur était bien utile.
Oui, et c'est vrai qu'il y avait des discussions puisque l'adresse au départ n'était pas une adresse aux enfants. Alors, ils n'étaient pas d'accord, les deux Grimm. Hein. Il y en avait un qui était plus savant, Jacob, et l'autre qui était plus styliste. Et au départ, Jacob, pour le dire en version originale, c'est un peu le gardien du temple, donc la question de l'enfance n'était pas centrale pour lui, mais c'est vrai qu'il y a eu, comme tu le dis, pas mal de gens dans leur entourage qui leur ont fait remarquer que tout de même, il y avait des contes qui étaient assez, assez atroces. Mmh. Mais par exemple, il y en a un qui est cité dans la correspondance, dans leur entourage, qui est une histoire atroce de... ça s'appelle « Les enfants qui jouent au boucher ». Et en fait, je ne me rappelle plus de tout le détail, parce qu'il y a plusieurs versions, mais c'est des enfants qui voient un boucher égorger un cochon, donc ils se disent « c'est bien, on va faire pareil ». Donc en fait, le grand frère égorge le petit frère, du coup la mère qui voit ça, son bébé lui échappe et se noie, elle se précipite, elle se tue, le père se pend, enfin, et ça finit comme ça. C'est un conte... particulièrement atroce. Il me semble que dans la correspondance, Jacob ou Wilhelm, mais je crois que c'est Jacob, avait répondu « nous, on nous le racontait quand on était petits ». Voilà.
Vous partagez avec moi le charme qu'il y a à entendre deux universitaires parler doctement de la matière qui nous réunit. Une question pour vous que je prolongerai par une autre pour Evelyne Jacquelin et on élargira le cercle pour prendre les questions de la salle, rassurez-vous. Mais en vous lisant, comment je me suis demandé pourquoi vous ne répondez pas à l'une des questions qu'on est en droit de se poser. Vous y aviez répondu, mais votre rapport plus personnel, pas forcément intime, mais plus personnel, avec ce conte, pourquoi l'universitaire que vous êtes ne s'est pas autorisé à se livrer à ce qu'en histoire, en géographie, on pourrait appeler une étude littéraire qui assume la part personnelle. En d'autres termes, pourriez-vous, pour commencer, rappeler, partager l'émotion que vous aviez ressentie en découvrant la première fois le Blanche-Neige? Je m'autorise cette question, Pascal Auré-Rouchière.
Alors d'abord, il faudrait que je me souvienne. Je ne vais pas esquiver la question, mais de cette première fois. Non, oui, je possédais plusieurs ouvrages, enfin plusieurs albums, l'histoire de Blanche-Neige avec des illustrations, des belles illustrations. Donc c'est vrai que j'ai été peut-être assez tôt imprégnée davantage par ce conte que d'autres. Mais alors, si je vous réponds en toute sincérité, c'est absolument ridicule. Et pour une fois, la princesse n'était pas blonde. C'est une question d'identification, voyez-vous, de projection.
Elle l'est en 1800.
Alors, elle l'est, oui, dans une...
On ne le sait pas.
Heureusement, elle ne la connaissait pas encore.
Mais moi, je voyais une petite fille qui avait les cheveux noirs. Et je pouvais, voilà. Mais ce n'est pas ça qui m'a...
Oui, bon, mais au-delà des circonstances, il y a cette dimension, j'allais dire, émotionnelle. Qu'est-ce que l'universitaire fait de cela?
Non, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Ce qui m'a toujours plu dans Blanche-Neige, c'est, je crois, que c'était un personnage féminin auquel il arrivait beaucoup de malheurs, ou enfin, qui se confrontait à une opposition constante, à des contraintes, et qui, au final, s'en sortait. Et je crois que c'est ça, c'est cette la répétition, la tentative d'étouffement, la tentative d'empoisonnement, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois, peu importe comment et peu importe depuis quand on est enfant, elle s'en sortait. Et c'était cette espèce d'obstination et cette volonté féminine finalement qui je crois, m'a toujours intéressée et qui donc s'est manifestée évidemment tout à fait différemment au moment où c'est devenu impossible objet d'étude, parce que j'ai bien vu que effectivement c'était une figure qui se prêtait tout à fait bien à des réflexions fort sérieuses en réalité sur la société, sur les sociétés, nos sociétés contemporaines plus particulièrement.
Alors, je reformulerai ma question à l'intention d'Evelyne, Jacqueline, mais vous pourriez répondre à la même question. Mais je la reformule comme suit, c'est que en vous lisant et en lisant également Pascal Auré-Jonchière, je me demandais comment tenir d'une main cette exigence de théorisation, de conceptualisation qui se traduit par l'usage de mots extrêmement précis. On en a évoqué l'intermédialité, l'intertextualité, etc. et bien d'autres choses. Et comment la dimension du conte qui n'est pas réductible à une approche conceptuelle, théorique. Qu'est-ce que vous faites de cette part-là au risque de donner parfois, pas vous forcément, mais le sentiment d'assécher l'objet d'étude. Est-ce que vous voyez... très bien.
Oui, je pense que si j'avais dû répondre à la place de
vous
Pascal
pouvez...
tout à l'heure, c'est-à-dire uniquement sur la partie émotionnelle, mais je pense qu'on l'a senti dans ta réponse, c'est en fait obscur, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas forcément. Pourquoi, par exemple, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, finalement, pourquoi Blanche-Neige plutôt que Cendrillon qui s'en sort aussi, ou plutôt pourquoi Blanche-Neige plutôt que La Belle au Bois Dormant qui s'en sort aussi, surtout La Belle au Bois Dormant parce qu'elle dort de même. Enfin, je veux dire, il y a ce motif du sommeil en commun en plus. Donc pourquoi Blanche-Neige? C'est une et je pense que c'est, enfin moi c'est une question à laquelle j'ai réfléchi depuis que vous me l'avez, enfin
on
avait préparé
un petit peu
en amont,
peu avant,
et je me suis dit oui c'est vrai, c'est des souvenirs d'enfance comme tu dis qui passent par l'illustration souvent aussi, peut-être qu'elle était plus joliment dessinée ou qu'elle avait un plus joli costume. En y réfléchissant, moi, je me suis dit que c'était l'épisode de la fuite dans la forêt, je pense, qui personnellement me touchait. C'est-à-dire que contrairement aux autres héroïnes qui sont plus urbaines, il y a une confrontation avec la nature sauvage, en fait. Et je pense que c'est ce retrait dans la nature sauvage qui, personnellement, me parlait. Et pour la deuxième partie de la question, et qui la rend un peu active, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques considérant que c'était des héroïnes, justement, dans une perspective féministe un petit peu basique et de première lecture. Que faire de Blanche-Neige ? On a beaucoup accusé les Grimm de l'avoir domestiquée, puisque dans les différentes versions, les nains lui demandent de plus en plus de choses domestiques. Au départ, ils disent « on te garde à la maison », puis après, ils disent « oui, mais il faudra que tu balayes, que tu fasses la cuisine, etc. » Donc, on leur a reproché ça. Après,
et elle s'y complaît, en plus. Hein.
Oui, enfin, alors, chez Walt Disney, elle chante en balayant, mais en fait, elle chantait avant aussi, donc... D'une certaine manière, elle chante en faisant les choses. Ça veut dire qu'elle vit sa vie de manière inattaquée. Et c'est peut-être ça qui est fascinant aussi.
Et sur le,
pour
voilà.
la partie scientifique, ben, c'est notre métier, tout simplement, je répondrais. C'est-à-dire, si on veut pratiquer notre métier de manière un petit peu satisfaisante et sérieuse, c'est une... Oui, la rigueur intellectuelle, c'est... Ça devient une... Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est une chose qui me paraît évidente, en fait.
Bah, il faut expliquer ce que l'on fait, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut faire voir. Donc, y a certains termes qui sont là pour ça. Il s'agit de ne pas en abuser. Et il s'agit, tout en usant de ces termes... Alors, est-ce que c'est réussi ou pas ? Ça, c'est autre chose, mais c'est l'idée. Il s'agit, au contraire, d'essayer de rendre... ces objets que l'on prend comme objets d'étude, enfin ces œuvres littéraires ou ces œuvres d'art, etc., de les rendre plus passionnantes, plus riches, parce que ça va éclairer tel coin obscur, justement, ça va susciter des choses. Et évidemment, il n'y a pas que ça entame la beauté, la sensibilité de l'objet littéraire, c'est fait pour, au contraire, montrer la richesse extraordinaire et qui reste ouverte, évidemment, ça je crois qu'il est très important de le préciser, de ces œuvres littéraires.
Alors, j'ai bien conscience et j'en assume la responsabilité qu'on n'a pas tout à fait répondu au questionnement de l'intitulé qui nous invitait au final à nous demander comment... un tel conte, de tels contes peuvent être des supports éducatifs et selon quelle version, à partir de quelle version. Mais on peut travailler cette question peut-être à travers les échanges avec la salle qui est tout à fait autorisée à poser des questions. Mais j'assume cette responsabilité, d'autant que je parle sous votre contrôle. C'est pas cet enjeu éducatif n'est pas présent dans vos travaux respectifs, dans les livres que je viens de citer.
Il y a un article dans celui-là.
Hormis un article, voilà, mais qui n'est pas signé de vous.
De Béatrice Ferrier, justement.
Voilà,
c'est
d'accord.
Son domaine de spécialité.
Voilà. Je raconte pas l'histoire de Blanche-Neige. Mais je raconte une histoire un peu similaire qui vient d'Afrique du Nord, je pense, qui s'appelle Graines de grenade, et dans laquelle c'est la mère qui fait mourir sa fille, enfin, qui cherche à faire empoisonner sa fille. Alors j'ai raconté à des enfants, et une petite fille m'a dit, mais quand même, tu vois, elle voulait tant un enfant, et à la fin, elle le fait tuer, puisqu'elle est jalouse de la beauté de sa fille. Et je lui dis, ben oui, tu te rends compte. Et on a été comme ça, expectative, sur la complexité de l'âme humaine. On en est resté là. Mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que c'est une question ouverte, finalement.
Très bien. Merci.
J'étais contente d'avoir apporté ce conte atroce à des enfants qui l'ont bien compris, quand même.
Parce que les contes n'ont pas pour vocation d'être lisses non plus. Ils ont pour vocation de susciter des questions.
À partir d'un déséquilibre qu'on restaure grâce à une fin parfois plus heureuse que ce qui était annoncé au début. Non, elles ne vont pas vous raconter de contes. Ça, c'est tout à l'heure. Parce qu'on a oublié de préciser, c'est mentionné dans le programme, que nous avons la chance d'avoir une conteuse en chair et en os, en la personne de Sylvie Mombeau, qui est, je crois, par là-bas, et qui nous fera donc le cadeau d'une veillée comptée, de deux veillées comptées. Mais auparavant, nous pouvons encore rester ensemble pour recueillir vos interrogations. Il y a un bras qui se lève. En tout cas, le conte aura permis d'amorcer une belle discussion entre vous et votre petite fille, hein, c'est ça ? D'accord. Oui. On vous écoute.
Bonsoir, oui. Je reviens un peu sur le titre du coup, de la conférence. Et j'ai posé une question, puisque apparemment vous connaissez vraiment bien du coup, le conte. Quelle serait, on va dire, une façon de raconter le conte qui soit vraiment nouvelle, enfin pas nouvelle, mais qui apporte un nouveau regard pour vous, qu'elle serait soit par le média, soit par les thèmes abordés, qui prendrait la parole. Enfin, vu que vous connaissez très bien le conte, je serais curieuse de savoir quelle serait une version nouvelle, un nouvel angle d'approche de Blanche-Neige aujourd'hui.
Je vous laisse répondre, mais auparavant, vous avez eu l'occasion de lire les travaux de...
Non.
Non. Alors, ça peut être déjà, et je le dis je trouve la question intéressante, et je trouve que vos livres y répondent en grande partie. Dire, mais je vous laisse le préciser.
Bah, j'allais justement dire qu'il fallait que ce soit Pascal qui réponde à la question, puisque c'est précisément l'objet de son livre. C'est-à-dire que moi, je connais une version antérieure au Grimm, dont je peux éventuellement parler, parce que la marâtre est au centre aussi. Donc, en fait, dès le départ, la marâtre est au centre et elle est fascinante parce que finalement, on s'intéresse aussi à l'incarnation du mal et du mal au féminin. Et peut-être que ça fascine aussi chez Blanche-Neige par rapport à Cendrillon, ou par rapport à... Peut-être que la marâtre nous fascine autant que Blanche-Neige. C'est précisément dans les réécritures, tu l'as montré, que la marâtre prenait de l'importance aussi.
Oui, l'originalité, elle est permanente, la créativité, elle est permanente, hein, que ce soit dans le registre, encore une fois, enfin dans le domaine de l'écrit, de la littérature. Alors après, il faudrait parler des genres. Au départ, c'est un conte. À partir de ce conte, on a réécrit le conte sous forme de conte, mais sous forme de roman, mais sous forme, on en parlait tout à l'heure, de pièces de théâtre, mais sous forme de livres et d'opéra, mais sous forme de poèmes. Il y a des poèmes entiers et des cycles de poèmes qui sont consacrés à Blanche-Neige. Donc, c'est extrêmement nouveau, des poèmes, alors qu'ils peuvent aller dans des tonalités, dans des registres extrêmement différents. Donc, tout cela, et je laisse de côté, parce que c'est moins mon domaine et qu'on y a fait allusion, bien sûr, tout ce qui est pictural, tout ce qui est filmique, la musique, dont, bon, moi, je ne suis pas spécialiste, mais ça en fait partie aussi, bien évidemment, mais c'est infini. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette richesse. À chaque fois, se réapproprie les choses, en fait un nouvel objet. Alors, je dis objet, c'est pas un mot très joli, mais bon, c'est un mot neutre qui est pratique. Un nouvel objet qui peut être partagé, hein, qui est fait pour être partagé, et on rebondit là-dessus. Et nous, on aime à interroger ces objets-là. Ouais. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'en créer aussi, le cas échéant, parallèle.
De ce point de vue-là, il y a un cas extraordinaire, c'est celui de ce dessinateur japonais où il y a qui fait subir à Blanche-Neige, pardon,
l'album.
Voilà, parfaitement, qui fait de subir, si je puis dire, au conte une double transformation liée à son interprétation, au passage à un autre média, et de surcroît dans une ère culturelle japonaise. Qui ne peut que laisser surprendre quant à la manière dont c'est reçu dans cette ère culturelle. Je suis un peu confus, je vous laisse.
Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un album. Oui, pardon.
Simplement, vous indiquez qu'il y a une autrice qui s'appelle Beatrice Alemania, qui a fait un album absolument somptueux qui s'appelle Adieu à Blanche-Neige, dans laquelle elle s'implique dans ce conte et elle met de manière très personnelle la personnalité dite de la marâtre. Et je pense que étudier un conte, que ce soit Blanche-Neige ou un autre, il se trouve qu'il y a beaucoup de versions de ce conte et qu'on ne peut pas juste en apporter une lecture qui est celle européenne, des frères Grimm. Il en existe énormément de versions de par le monde et c'est ça qui nous interroge. Comment ailleurs sur la planète ce conte existe avec ses variations, et c'est le propre du conte. Et quand vous disiez d'un point de vue émotionnel que c'est parce qu'elle s'en sort, Blanche-Neige, c'est le propre de tous les contes, que les héroïnes ou les héros s'en sortent, et c'est en ça que les contes nous touchent, parce qu'ils ont cette capacité de nous dire que si la vie va mal, ça peut s'arranger. Voilà la force des contes, que ce soit Blanche-Neige ou n'importe quel autre conte, et en particulier pour ces héroïnes qui, dans les contes, souquent vraiment, elles souffrent souvent beaucoup plus que les gars.
Mais à chaque fois, une histoire différente et dans un contexte différent. Et c'est ça qui est intéressant et qui peut faire qu'on s'intéresse plus ou moins à tel ou tel héros ou héroïne. Non, je voulais juste vous dire qu'il y a un chapitre du livre qui est consacré à l'album magnifique, en effet, et passionnant de Beatrice Alemania.
Très bien. Et le livre, quant au livre d'Evelyne Jacquelin, ça a été rappelé, il aborde les contes dans une double perspective et européenne et africaine. Donc on est vraiment dans ce décentrement. Et c'est sur ces mots-là.
À propos de la première intervention, allez-y. Je voulais vous signaler qu'il existe une collection, je crois que c'est chez Syros, il me semble, ça existe pour Blanche-Neige, mais pour Cendrillon, etc., qui sont les contes à travers le monde, vous la connaissez peut-être, et dedans, vous trouvez justement un certain nombre de versions apparentées dans le monde entier. Donc, pour les curieux, c'est fait sous forme d'album pour enfants, avec des illustrations, ça peut être lu aussi, mais avec une postface, je crois, de Nicole Belmont. Donc, il y a un aspect bien informé aussi. C'est quelque chose qu'on peut recommander aussi. Mmh.
J'avais annoncé la couleur. Vous allez être frustrés. Et parce que je dois arrêter cette première séquence maintenant, toujours dans l'obsession d'éviter de partir après que cette maison se soit transformée en citrouille. Et j'ai un chronomètre sous les yeux, je peux vous le dire maintenant. Et c'est le moment, si j'ai bien compris, d'entendre Sylvie Mombeau. Merci.
Bonsoir à tous. Je me livre à un premier essai pour savoir si vous entendez bien le son de ma voix. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller écouter un conteur ou une conteuse et de ne pas avoir entendu ce que la personne a dit. Donc si jamais ma voix venait à faiblir, faites-moi signe et je prendrai le micro. Ça vous va au fond ? Muriel Bloch, est-ce que tu entends bien le son de ma voix ? Et bam, une pique.
C'est Muriel.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis conteuse, certes, mais ce soir, c'est un petit peu un défi pour moi parce que je vais plonger dans un répertoire que je ne connais et ne maîtrise absolument pas. Je vois ici qu'il y a le spécialiste des mille et une nuits. J'espère ne pas trop torturer le récit, ce début de récit. Vous êtes prêts ?
Oui.
Moi aussi. Il était une fois deux frères, l'aîné et le cadet, Shahriar et Shahzaman, deux rois. L'aîné régnait sur les îles de l'Inde et de la Chine, dit-on, le cadet sur le territoire de Samarcande. L'on dit aussi que ces deux-là étaient justes, bons, mesurés, aimés par leur peuple. L'on dit aussi que ces deux-là étaient tellement occupés à gouverner, régner sur leur territoire, qu'ils n'avaient pas pris le temps de se voir pendant 20 longues années. Un jour, l'aîné, Shahriar, convoque son vizir et lui dit « Mon frère me manque, vois-tu ? J'aimerais que tu ailles le quérir. » Lui dire de venir ici en mon royaume pour que je l'embrasse. Il me manque. Le vizir regarda son souverain et lui dit « J'écoute et j'obéis. » Mais en vérité, à l'intérieur du cœur du vizir, il y avait un tracas. Le vizir savait que le voyage serait long, peut-être même périlleux, et il se trouve que ce vizir avait deux filles qu'il aimait plus que sa vie. L'aînée, Shahrazad, elle avait lu 1000 livres, 1000 grimoires, elle avait le don des histoires. Et sa sœur, Dunyazad, aussi intelligente que son aînée, aussi douce, aussi fine. L'équité ne lui plaisait pas beaucoup. Néanmoins, il le dit encore à son souverain. J'écoute et j'obéis. Avec son escorte, il partit. Se rendit au palais du roi Shahzaman, à qui il dit « Ton frère te demande ». Shahzaman répondit « Mon frère me demande ». Eh bien, j'écoute et j'obéis. Mais à l'intérieur du cœur de Shahzaman, il y avait comme un tracas. Il était partagé. Partagé entre le plaisir de revoir son aîné et le déplaisir de quitter son aimé, sa douce, sa femme, sa tendresse. J'écoute et j'obéis, il répéta. Il fit seller son meilleur cheval, préparer ses caravanes, préparer ses servants, ses serviteurs, et il alla embrasser sa femme. Il lui dit mille fois combien elle lui manquerait, et la femme dit la même chose de son côté. Et puis, il emboîta le pas au vizir et à son escorte. Le voyage allait se faire en plusieurs étapes. Première étape, à quelques lieues du palais de Shahzaman. Voilà, la nuit est tombée, le campement est endormi. Et Shahzaman ne trouve pas le sommeil parce qu'il a oublié quelque chose en son palais. Un cadeau qu'il destinait à son frère aîné. Un joyau de couronne. Ni une ni deux. Shahzaman remonte sur son cheval et galope jusqu'à son palais endormi, son palais enveloppé dans la nuit. Là, dédale de couloirs et de corridors, il va jusqu'à son alcôve royale, jusqu'à son lit nuptial, plongé dans l'obscurité. Il lui faut un temps pour que ses yeux s'habituent à l'obscurité, il lui faut un temps pour voir le corps de sa femme, endormi, alangui. Il laisse son regard planer sur son beau visage délicat, sur son cou gracile, sur ses seins pleins, sur son ventre, son nombril. Tiens, il ne voit pas son nombril, comme s'il était enveloppé par la nuit. Non, pas la nuit, une main. La main noire, celle d'un esclave, qu'il reconnaît pour être un esclave qui travaille aux cuisines. Aussitôt, une colère incandescente emplit tout son corps. Et cette ire remarquable le conduit à sortir de lui-même. Oui, mesdames et messieurs, il est hors de lui. Et cet hors de lui lui fait porter la main à son fourreau. Et cet hors de lui lui fait prendre son sabre. Et cet hors de lui lui fait transpercer le corps de l'esclave, puis de sa femme. Ensuite, il prend les deux cadavres, les traîne et les jette dans un des fossés de son palais. Ensuite, il va à son cheval, monte dessus et au grand galop, il retourne au campement. Ensuite, il cherche le sommeil, il cherche à s'endormir sur son secret, pardon, sur son crime. Le lendemain matin, on lui a trouvé les cheveux blanchis et le teint jaune. Il n'a pas parlé de toute la journée, il n'a pas parlé de tout le voyage, il n'a pas parlé lorsqu'il est arrivé au palais de son frère. « Est-ce que tu n'es pas heureux de me voir ?» lui dit son aîné, Shahriar. « Mon cœur est en joie de te voir, si. » Shahriar fait organiser des fêtes pour égayer son petit frère, des fêtes auxquelles il convie des conteurs, des danseurs, des musiciens, des fêtes avec des festins, meilleurs cuisiniers, pâtissiers, spiritueux. Mais le frère ne se déride pas. Qu'as-tu, mon petit frère? Dis-moi quelle est la cause, dis-moi quel est l'objet de ton mal. Un matin, Shahriar lui dit, écoute, tu aimes chasser. Allons chasser la gazelle ensemble. Allons. Je n'irai pas chasser. Va, toi. Shahriar est parti chasser la gazelle. Lui, Shahzaman, est resté au palais, à l'intérieur, au frais. Il s'est assis devant une lucarne qui donnait sur le jardin du palais. Le jardin du palais, camailleux de verre, tendre de toutes les sortes. Le jardin du palais, des arbres, des essences délicieuses. Les jardins du palais, tiens. Shahzaman voit 10 servantes blanches entrer accompagnées de 10 servantes noires. Elles rient, piaillent, roucoulent, on dirait des oiseaux. Elles ont l'air tellement heureuses. Et puis la reine, la femme de Shahriar, suit. Mais non, ce ne sont pas des servantes. Il voit les servantes noires se dévêtir, se défaire, se déshabiller, se mettre nues, complètement nues. Ce sont des hommes, des esclaves noirs. Et les femmes rient et s'allongent sur le sol, écartent leurs jambes, et les esclaves les prennent. Sans autre forme de procès. Tout ce monde s'amuse. Ensuite, vient le tour de la reine. La reine crie « Massoud !» Et un homme, un noir encore, un esclave, glisse d'un arbre, descend, demande à la reine de s'allonger, elle ouvre les jambes et il la prend. Bah oui, il est comme vous. Mais vraiment, comme vous. Ah, c'est l'image parfaite. Je vous le fais parce que tout le monde ne voit pas. Et alors, il y a quelque chose de fantastique chez l'humain. C'est que quand on souffre, savoir qu'autrui souffre aussi, bah, tout de suite, on va mieux. Shahzaman, dont le frère Shahriar est aussi puissant, n'en revient pas. Il est trompé, lui aussi. Ça lui donne de l'appétit. Ah ben, il mange, il boit, se remet à marcher, à rire, tant et si bien que quand son frère aîné revient, Shahriar lui dit « Mais qu'as-tu fait pendant ces 10 jours? Pourquoi es-tu aussi heureux et quel était ton malheur ?»« Je peux te dire quel était l'objet de mon malheur, mais je ne peux pas te dire pourquoi je suis devenu heureux. » Alors il lui raconte. Il lui raconte comment sa femme l'a trahi et comment il a tué son esclave, amant, et comment il a tué sa femme jetée dans le fossé. « Bien, dit Shahriar, j'aurais fait la même chose, mais qu'est-ce qui t'a rendu si heureux ?» Ah, je ne peux pas te le dire. Mais Shahriar insiste tant et tant que Shahzaman finit par raconter tout ce qu'il a vu dans le jardin. Shahriar ne veut pas y croire. Ça n'est pas possible. Pas ma femme. Non, pas ma femme. Eh bien, organise une chasse. Fais semblant et tu verras bien. Shahriar organise une chasse, fait croire qu'il quitte le palais et vient rejoindre Shahzaman à la lucarne. Et lorsqu'il voit débarquer les 10 servantes, les 10 esclaves, lorsqu'il entend sa femme appeler Massoud, lorsqu'il les voit de ses yeux vus, les bras lui en tombent. Il veut quitter le palais. Voilà ce qu'il dit à son frère. Il veut aller au loin. Il veut s'en remettre à Dieu. Et même, il veut mourir. Ah non, lui dit Shahzaman. Non, nous n'allons pas mourir pour ça. Eh bien, voyons, dit Shahriar, voyons. Si nous trouvons sur cette terre quelqu'un qui aura plus de malheur que nous, j'accepte de ne pas mourir et de revenir au palais. Et voilà nos deux frères partis, l'aîné et le cadet. Ils cheminent. Ils cheminent tout en parlant des femmes, de leur infidélité. Ils cheminent jusque vers la mer, jusque vers l'océan, une grande prairie. C'est là qu'ils s'arrêtent. Il y a quelques arbres éparses. Ils ont besoin d'eau fraîche, un tronc accueillant. Les voilà qui s'adossent, se calent confortablement, continuent de parler en regardant au loin l'étendue bleue de la mer. Et c'est à ce moment-là que les deux hommes voient la mer se couper en deux, un trou, une béance fantastique. Et de cette béance émerge une colonne surmontée d'un génie à la grosse tête et au poitrail impressionnant. Le génie a sur sa tête un coffre. Dans le coffre, ça c'est la conteuse qui vous le dit, dans le coffre il y a une caisse. Et dans la caisse, il y a une femme.
Ouais.
Et le coffre est fermé par 7 serrures. Et le génie a autour de la taille une ceinture avec 7 clés qui ouvrent les 7 serrures du coffre. Ça, ils ne le savent pas, pas encore. Ce qu'ils voient, nos deux rois, c'est cette colonne qui tournoie sur elle-même, qui va jusqu'à la prairie. Le génie vient s'allonger dans la prairie. Il est tellement grand que ses jambes, lorsqu'il s'allonge dans la prairie, lorsqu'il se met, tiens, juste au niveau de l'arbre de nos deux compères. Et ceux-là, lorsqu'ils ont vu le génie arriver, vite, 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 ils ont grimpé dans l'arbre, ils se sont cachés dans la cime de l'arbre, et ils regardent le génie tout étendu. Et puis le génie se redresse, il prend le coffre, l'ouvre, prend chacune de ses clés et décèle la caisse. La fille est magnifique, elle est jeune, presque une adolescente. Oui, de l'adolescence. Il y a de l'adolescence dans cette caisse-là. Il y a de la tendresse. Ça sent presque encore le lait. Peut-être même qu'elle a même encore des croûtes de lait dans la tête, cette fille, tellement elle est jeune. Mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, se disent les frères. Et le génie parle. Le génie dit, viens, assieds-toi là, je vais me reposer sur ton giron, toi que j'ai enlevé la nuit de tes noces. Voilà ce que dit le génie, avant de poser sur sa tête sur les genoux de la fille, avant de s'endormir et de ronfler doucement. Un bruit au-dessus de la tête de la fille. Elle regarde vers la cime de l'arbre et elle voit nos deux rois, Shazaman, et Shahriar. Intérêt. Venez tout de suite ou je réveille mon génie. Ils sont descendus. Elle s'est levée en poussant délicatement la tête du génie. Elle s'est allongée, déshabillée et leur a dit « Prenez-moi maintenant ». Non, nous n'en ferons rien. Voulez-vous que je réveille mon génie et qu'il vous tue? Prenez-moi maintenant. L'un après l'autre, eh bien, ils se sont exécutés. C'est étrange tout de même, non? Les contes. Ils n'y comprenaient rien, ni Shahriar, ni Shazaman. Quand ils ont eu fini leur affaire, elle a remarqué qu'ils avaient des anneaux à leurs doigts et elle leur a dit « Que chacun me donne son anneau ». Ils ne voulaient pas « Que chacun me donne son anneau, sinon je le réveille ». Alors chacun a donné son anneau à la demoiselle et chacun des anneaux, elle les a mis à un collier qu'elle avait à sa ceinture. Elle leur a dit, j'ai 98 anneaux. 98 anneaux que j'ai pris à mes prétendants. Avec vous, ça fera 100. Et elle a attaché le collier. Et elle leur a raconté. Elle leur a raconté son histoire à elle. Elle leur a raconté comment le génie l'avait enlevé le soir de ses noces. Elle a raconté comment le génie l'avait mis dans une caisse, puis dans un coffre, puis tout au fond de la mer. Elle leur a raconté comment le génie a dit que là, tout au fond de la mer, jamais, au grand jamais, elle ne le trompera. Pour toujours, elle sera obligée de rester fidèle, complètement fidèle. Mais vous voyez, il s'est trompé. L'opinion de Shahriyar et de Shahzaman est faite. Lorsqu'ils quittent l'arbre, la prairie, la jeune fille, le génie, lorsqu'ils prennent le chemin vers le palais de Shahriyar, Shahriyar sait déjà ce qu'il fera à sa femme adultère. Et il le fait. Oui, quand le roi rentre au palais, il convoque les servantes, les esclaves, sa femme et à tous. Quick, quick, quick. Il invente une loi. Oui. Il décide que chaque soir, on va lui apporter une jeune fille nubile et vierge. Il décide que chaque soir, il déflorera cette jeune fille nubile et vierge. Il en fera sa femme pour un soir et un soir seulement. Au petit matin, il la fera exécuter. Quick, quick, quick. Et jour après jour, ou je devrais dire nuit après nuit, la loi de Shahriyar est exécutée. Oui. 3 ans. Le vizir vient voir Shahriyar un jour et lui dit « Maître, vous le savez, j'écoute et j'obéis. Vous êtes mon souverain. Les deux jeunes femmes, il ne reste plus. » La situation est grave et le vizir a la mine tellement fermée que sa fille aînée, Shahrazad, lui demande quel est l'objet de sa préoccupation. Alors il raconte. Et Shahrazad sourit et dit, moi je serai la femme du vizir, la femme du souverain. Mais le vizir ne veut pas, il ne veut pas perdre sa fille, elle insiste. Je sais comment je ferai. Je sais que je pourrais l'amadouer. Je sais que je pourrais lui raconter des histoires. Raconter des histoires au vizir. Eh bien, a dit le vizir. Non, raconter des histoires au souverain. Merci de suivre. J'aime bien parce que vous êtes vous êtes comme ça. Non, c'est. Merci beaucoup. Raconter des histoires au souverain. Le vizir a dit, mais moi j'ai une histoire à te raconter, écoute-la. Peut-être qu'elle te fera changer d'avis, Shahrazad. Écoute ceci. Il était une fois un marchand. Un marchand qui avait un don, il avait le don de comprendre le langage des animaux. Tous les animaux, il pouvait les comprendre. C'est pas mal, non? En revanche, il avait aussi une malédiction. C'est qu'il ne pouvait pas parler de son don. Il ne pouvait dire son secret à quiconque sous peine de mourir. Un jour, le marchand est dans sa cour avec sa femme qui est assise à côté de lui et ses enfants qui jouent. Et puis il y a les animaux. Il y a le bœuf, il y a l'âne. Et le marchand entend. Le marchand entend le bœuf parler à l'âne. Le bœuf dit, « Dis donc l'âne, toi tu as une vie tranquille. » Moi, je travaille du matin au soir. Je suis là, sur les sillons. On me bat, on me fouette. Ce que je mange n'est pas bon au goût. Et toi? Toi, tu as de l'orge, criblé. Tu te reposes de temps en temps. Tu portes le maître pour aller faire une course en ville, mais sinon, tu as la vie douce. C'est vrai, Dylan. Laisse-moi te donner un conseil. Ce soir, lorsque l'on remplira ton auge, ne mange rien. Demain matin, lorsque l'on remplira ton auge, ne mange rien. Lorsque le laboureur viendra te chercher pour aller travailler, fais mine que tu as mal au jarret, couche-toi sur le flanc, c'est tout. Et ben le soir, on apporte à manger au bœuf, il ne mange pas. Le matin, on apporte à manger au bœuf, il ne mange pas. Quand on vient le chercher pour travailler, il a mal au jarret et se couche. Le laboureur va voir le marchand et lui dit ce qu'il se passe. Le marchand sourit et dit, « Eh ben, fais atteler l'âne. » Attelle l'âne Et toute la sainte journée, du matin au soir, l'âne fait le travail du bœuf. Le soir, il est éreinté, épuisé, lessivé, exténué. Le bœuf, lui, est tout racaillardi. Il se tourne vers l'âne et lui dit « Merci, merci l'âne. J'ai passé la meilleure journée de ma vie depuis que je suis dans cette ferme. Ton conseil était vraiment excellent. Merci beaucoup l'âne. » Et l'âne lui dit « T'emballe pas. T'emballe pas parce que j'ai entendu le marchand et le laboureur parler de toi. » Ils disent que si demain tu ne te lèves pas, tu iras chez le boucher. Le lendemain matin, lorsque le laboureur vient chercher le bœuf, hop, il se met sur ses quatre pattes et il pète, il marche, il caracole, presque on dirait un bœuf qui danse, comme s'il était heureux d'aller labourer. Et quand il voit ça, le marchand, il est comme vous, il rigole. Ça, vraiment, ça le fait rire. Et il rigole et sa femme lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu rigoles ?»« Oh, j'aimerais bien pouvoir te le dire, mais je suis tenue par le secret. Si jamais je te disais la raison pour laquelle je rigole, j'en mourrais. » La femme regarde son mari, elle lui dit « Quoi, quoi ? Moi qui lave tes chemises tous les jours ? Moi qui te fais à manger ? Moi qui te console quand tu es triste ? Moi qui te donne des conseils quand tu sais pas quoi faire, tu peux pas me dire quel est l'objet de ce qui te fait rire là présentement? Eh bien, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais non, non, mais je ne peux pas te le dire, sinon je vais mourir. » Mais la femme insiste tant et tant que le marchand se prépare à mourir. Il lui dit « Je vais te le dire, mon secret, ma femme, puisque tu veux le connaître. Mais sache que je vais vraiment mourir. » À tel point qu'il convoqua leur famille, fit ses ablutions. Vraiment. Il savait qu'il était au seuil, là, de la vie. Quand il a entendu le coq et le chien discuter. Le coq qui saute dans sa basse-cour, qui prend 1, 2, 3, 10 femelles, qui joue, qui caracole, et qui demande pourquoi la ferme est aussi triste. Et le chien de répondre, c'est que le maître est obligé de dire son secret à sa femme. Alors il sait qu'il va mourir. Le coq regarde le chien et lui dit, quoi ? Moi, j'ai 50 femelles dans ma basse-cour que je gère tous les jours, et tu me dis que le maître ne peut pas gérer une seule femme. Mais moi, à la place du maître, j'irai cueillir une badine bien fraîche sur un arbre, je la rentrerai à la maison et je la fouetterai et fouetterai encore jusqu'à ce qu'elle promette de ne plus jamais rien me demander. Le marchand a entendu ça. Quand sa femme est venue, il l'a conduit dans la maison, il a fermé les portes les unes après les autres et il l'a fouettée avec la badine, fouettée avec la badine, fouettée avec la badine, fouettée avec la badine. Et le vizir s'est tourné vers Scheherazade et lui a dit « Ma fille, tu crois jouer un tour au roi Sharia, mais tu risques de finir comme cette femme dans l'histoire. » « Je m'en arrangerai, » a dit Scheherazade. Alors voilà, c'est son tour. Le soir des noces de Scheherazade est arrivé. On l'a conduit dans l'alcôve du roi Sharia. Et elle pleure. « Qu'as-tu ? » lui demande le roi. « Je pleure parce que je voudrais que ma sœur puisse venir. J'aimerais pouvoir l'étreindre. J'aimerais même qu'elle passe la nuit ici, dans l'alcôve. »« Si c'est ton vœu, » lui dit Sharia. On fait venir Dunyazade, la sœur de Scheherazade. Le roi déflore Scheherazade. Dunyazade, dit l'histoire, se tient au pied du lit. Étonnant. Après les ébats, Dunyazade, exactement comme le lui a demandé Scheherazade, demande « Ma sœur, pourrais-tu nous conter une histoire qui nous amènerait jusqu'au début du jour ?» Scheherazade se tourne vers le roi Sharia et dit « Peut-être que ce roi bien clément acceptera ?» Le roi dit « Oui. » Et c'est exactement comme ça qu'ont commencé 1001 nuits d'histoire que je ne vous raconterai pas ce soir, parce que sinon, elle nous tiendrait peut-être jusqu'à samedi prochain. Merci beaucoup.
Je vous propose de mettre à profit la distance qui nous sépare du buffet pour savourer dans le silence ce que l'on vient d'entendre, sachant que nous vous retrouvons ici dans une trentaine de minutes et on écoutera attentivement le verdict du spécialiste des mille et une nuits suite à ce qu'il vient d'entendre, si l'on est d'accord. Merci Evelyne, merci Pascal.